Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Ce mois de mars est l'occasion de vous proposer une émission dédiée au thème du cinéma, concernée il y a quelques jours par l'opération intitulée Le Printemps du cinéma, qui eut lieu cette année du 23 au 25 mars. Le cinéma sera donc à l'honneur dans cette émission, sous un angle juridique et numérique. J'ai le plaisir de recevoir deux invités de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Antoine Boilet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collège de l'ARCOM, président du groupe de travail création et production audiovisuelle, cinématographique et musicale. Avec vous, Raphaël Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, pour votre part, directeur de la création au sein de l'ARCOM. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Cinéma et régulation, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Pour la dernière émission de l'année 68 de Cinéma Critique, nous avons eu la tentation de faire un bilan et nous sommes adressés à Pierre Ajam pour faire un bilan de l'année, non pas un bilan parce que je sais qu'il n'aime pas ce mot et qu'il n'aime pas non plus le système de cotation qui consisterait à lui demander son classement des 10 meilleurs films de l'année et au fond quel intérêt il y a de savoir que dans votre esprit les Gauloises Bleues sont meilleures que les Canards Sauvages ou que Prima della Rivoluzione est moins bon ou meilleur que le Tatoué. Enfin je veux dire, chacun peut faire des cotations, chacun peut classer les chiffres de 1 à 10, mettre une, 2, 3 étoiles et je sais que vous êtes tout à fait contre ce système. Ce que je voudrais, c'est qu'ensemble, on passe en revue l'année 68, non pas tellement en faisant un catalogue de titres de films, mais en cherchant plutôt à voir comment l'année 68 laissera un souvenir aux cinéphiles dans la mesure où il a pu se passer sur le plan de la production, de la distribution et des œuvres vues quand même malgré tout, un certain nombre d'événements et de tendances que je voudrais qu'on dégage ensemble.
Ce bilan de l'année cinématographique 1968 nous plonge dans une ambiance feutrée du siècle dernier, ambiance par de nombreux côtés bien différente des préoccupations du monde actuel du cinéma. Désigné comme le 7e art, le cinéma est incontestablement un genre esthétique. Mais pour reprendre les termes du producteur français Daniel Toscan du Plantier, à l'occasion du centenaire de la naissance du cinéma, c'est aussi une technique née à la fin du 19e siècle, à l'époque des Frères Lumière, lorsqu'en 1895, ces derniers eurent l'idée de faire payer aux gens, sur un trottoir, le droit de regarder un film dans une salle obscure. La date de naissance du cinéma n'est donc pas celle de l'invention, ni celle du premier film, mais celle de la première projection publique payante du cinématographe. Le rôle et l'évolution de la technique restera depuis intrinsèquement lié à l'histoire de ce média de l'image qui s'imposera rapidement comme le deuxième média de masse. Progressivement, l'Europe en fait une industrie avant qu'Hollywood et ses usines ne s'imposent sur la scène internationale. Au XXIe siècle, télévision analogique puis passage au numérique ouvre de nouvelles perspectives en termes de création et de diffusion cinématographique. Dès lors, ces changements techniques posent de nombreuses questions juridiques. Comment appréhender le changement d'échelle du financement du cinéma du fait de nouveaux entrants et de leurs modèles économiques différents? Concrètement, le cinéma peut-il résister à l'expansion des plateformes de streaming à travers le monde? Peut-il aussi résister désormais à l'arrivée de l'intelligence artificielle? En somme, quel est l'impact de ces changements numériques et quels sont les nouveaux défis à relever en termes de régulation? Dans cet écosystème du cinéma français, l'ARCOM a un rôle majeur pour promouvoir et protéger la création cinématographique. On en parle dans un instant avec deux de ses représentants.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra, Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche.
Le cinéma, chanté par Claude Nougaro, pour introduire cet échange. Antoine Boller, Raphaël Berger, votre rôle au sein de l'ARCOM, au service de la création des œuvres cinématographiques, est pluriel. Parmi les premières missions de l'ARCOM, celle de concourir au développement de la production, de la création francophone et européenne dans les médias audiovisuels. Alors on va en parler, ça repose sur une série d'obligations, d'investissements, mais aussi de diffusion qui pèsent sur les éditeurs de services. Antoine Boller, pour commencer peut-être, pourriez-vous nous expliquer ce que ça implique, notamment on pense à la question des quotas de diffusion dont on entend parfois parler. Est-ce que vous pourriez clarifier tout ça ?
Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de cette invitation. On est ravis avec Raphaël de fêter le cinéma et le printemps du cinéma avec vous ce matin. On va rentrer dans les détails, dans l'extrait, l'archive tout à l'heure, il y avait le mot cotation, alors on va parler quota.
Oui.
On va parler de technique, de financement, mais avant, moi je voulais quand même faire une ode au cinéma, parce qu'en fait à l'ARCOM, on aime beaucoup le cinéma. Et en ce printemps du cinéma, je vais me permettre de partager les trois coups de cœur avec vous et avec notre public de ces derniers jours. C'est le film On ira, qui est un bijou, c'est un deuxième bijou, et on pourra en parler parce qu'il est porté par Prime Video, qui investit dans ce film dans le cadre des obligations ARCOM, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, tiré du livre de Roland Pérez. Et vous l'avez évoqué, c'est un petit clin d'œil, mais c'est le très beau film de Thierry Frémaux sur les 130 ans du cinématographe, Lumière, l'histoire continue. Alors pour répondre à votre question, je pense que c'est important. Au fond, les missions en matière de financement de la création et du cinéma de l'ARCOM sont assez méconnues. Et il me semble important peut-être de passer quelques instants avec vous sur la genèse du volet, on va dire, exception culturelle des missions de l'ARCOM. Vous savez, le pilier de notre régulation, c'est la loi du 30 septembre 86 relative à la liberté, c'est important, de création audiovisuelle, qui accompagne au fond en 86 la montée en puissance de l'ouverture à la concurrence après la fin du monopole en 1982. Et très vite, dans ces années 80, fin des années 80, il y a eu une prise de conscience des responsables politiques qu'il était alors indispensable, en parallèle du développement de nombre de chaînes privées, de la multiplication du nombre de supports de diffusion, qu'il était donc indispensable de maintenir d'une part un audiovisuel public fort et d'autre part de demander aux chaînes publiques, c'est évident, mais aussi privées, d'investir de manière très importante et volontariste dans la création française, audiovisuelle et cinématographique, tout en offrant à ces œuvres soutenues, promues et préfinancé une place privilégiée dans les grilles de programme. Et donc vous avez ici, au fond, les deux volets que vous avez évoqués dans votre question, à savoir ce qu'on appelle des obligations de production pour financer l'audiovisuel et le cinéma. L'audiovisuel, c'est quoi ? C'est la fiction, c'est le documentaire, c'est l'animation, c'est le spectacle vivant, et le cinéma, c'est le 7e art, et il nous réunit ce matin. Ça, c'est le volet obligation de prod. Mmh. Le deuxième volet, j'aime pas le mot, c'est les cotations de diffusion. C'est les quotas.
Vous non plus, vous n'aimez
diffusion.
Pas le mot.
Je n'aime pas le mot parce qu'au fond, ça sous-entendrait que les chaînes et les éditeurs n'ont pas envie d'y aller. Mmh. Le fait est que ces obligations de production et de diffusion, elles les respectent. Et donc, c'est bien le ciment de notre écosystème de régulation et de l'engagement au fond de l'ARCOM en faveur de la création. Et si on fait juste un petit focus sur les chaînes de la TNT, au fond, en contrepartie d'une utilisation gratuite d'une fréquence du bien national qu'est la TNT, les éditeurs publics, je le redis, c'est évident, et privés, ont l'obligation, en échange de cette gratuité d'utilisation d'une fréquence TNT, d'investir de façon très importante dans la création audiovisuelle et cinéma. Et tout ça, au fond, c'est un combat français qui a été mené dans ces années 80-90 en faveur de l'exception culturelle que nous sommes collectivement parvenus à élargir et à gagner au niveau européen au travers des directives Télévision sans frontières ou encore la directive SMA, Service de médias audiovisuels. Et je terminerai là-dessus. Au fond, dans ces 40 ans qu'on vient de voir en 2 minutes 30, le dernier élément très structurant de notre paysage, ça a été l'intégration des services de médias audiovisuels à la demande étrangers en 2021 à notre système d'obligation de financement de la production grâce à la transposition en France de cette fameuse directive SMA qui avait été révisée en 2018. Et ça, ça s'est fait mi-2021 au travers de l'adoption du décret SMAD, avec au cœur de ça, et on pourra peut-être en débattre, un principe nouveau en droit européen, c'est cette possibilité d'appliquer la règle du pays de destination qui fait qu'on peut dire à un Netflix, à un Prime Video ou à un Disney+, que la filiale française de ces opérateurs, à partir du moment où elle touche le public français, ces opérateurs devront respecter des obligations de production qui sont extrêmement importantes. On parle de 20 à 25% du chiffre d'affaires de ces plateformes. Ce n'est pas rien.
Alors effectivement, ce décret important, on va en reparler. Vous le citez là, mais on va en reparler dans un instant. Peut-être vous évoquez ce combat français, cette importance au regard de la France. On n'est pas seul à mener le combat. Si on parle de régulation, on pense au CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Imagerie Animée, qui est aussi un acteur incontournable pour le financement du cinéma. Alors, ce n'est pas une administration publique indépendante, mais il participe pleinement à cette action publique avec un rôle complémentaire. Raphaël Berger, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment vos actions s'articulent ?
Alors le CNC, donc le Centre National du Cinéma, effectivement, c'est difficile de ne pas en parler si on parle du soutien et du financement du cinéma. C'est une action qui arrive en effet en complément de l'action de l'ARCOM, du contrôle des obligations des éditeurs dont a parlé Antoine. Le CNC, c'est deux choses, les aides du CNC, de manière globale. Hein. Les aides du CNC, c'est environ 716 millions d'euros en 2023, dont pour le seul cinéma, 311 millions d'euros. Donc ça, c'est juste pour donner des grands montants. C'est un système d'aide avec des aides diverses et variées. Hein. Vous pouvez avoir des aides à la production, à l'exploitation, à la distribution. En fait, des aides qui couvrent l'ensemble de l'histoire de la construction d'un film, depuis l'écriture, donc jusqu'à l'exploitation. Ça, c'est le premier point, le premier levier d'action du CNC, donc des aides, donc de l'argent donné, distribué aux acteurs de l'écosystème du cinéma pour produire des films. Vous avez ensuite un système d'avance sur recettes, donc comme son nom l'implique, ce sont des avances sur les recettes que peuvent générer des films. Et enfin, un troisième point qui n'est pas vraiment un système d'aide, mais plus exactement un système d'autorégulation, c'est le système de la chronologie des médias qui est mis en place, on va dire, sous la tutelle, sous le contrôle du CNC, mais qui est un accord de droit privé, on va dire, entre les acteurs privés, c'est-à-dire que les différents acteurs donc de la distribution, de l'exploitation audiovisuelle de films, c'est-à-dire les chaînes de cinéma, les chaînes de télévision, le système, les plateformes type, on a parlé de Prime Video, Disney, etc., Disney Plus et d'autres, ou Netflix, et les exploitants de cinéma se mettent d'accord pour établir en fait le moment où un film peut être diffusé ou pas diffusé, ou plus exactement exploité ou non exploité sur ce qu'on appelle une fenêtre. C'est-à-dire qu'un film de cinéma aujourd'hui, il est d'abord exploité exclusivement dans une salle de cinéma durant les 3 ou 4 premiers mois. Ensuite, à partir du quatrième mois, il peut être exploité en DVD, donc désormais évidemment en VAD, en vidéo à la demande ou VOD, VAD à l'acte. Donc vous achetez, vous louez le film à l'acte. Ensuite, vous avez une autre fenêtre. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment. Certaines restent ouvertes, d'autres se referment selon les fenêtres. Vous avez ensuite, à partir de 6 mois, les premières chaînes de télévision payantes dédié au cinéma, donc en l'occurrence
Canal Plus,
voilà, à 6 mois qui peut avoir un film. Ensuite, vous avez d'autres fenêtres qui s'ouvrent selon justement les différents accords entre les éditeurs, les plateformes et les professionnels du cinéma et l'accord proprement dit. Vous avez par exemple les plateformes peuvent les plateformes type Netflix, Prime Video, Disney+, etc., on en a parlé, peuvent avoir des films à partir de 10 mois, en l'occurrence pour Disney+, qui a signé un accord très récemment. Vous l'avez à 15 mois avec Netflix ou à 17 mois pour les autres plateformes.
9 mois pour Disney.
9 mois, excuse-moi. 9 mois. Donc, au début du 10e mois, voilà, fin du 9, début du 10e, et 17 mois pour les autres plateformes. Donc, ce sont différentes fenêtres et on arrive jusqu'à 22 mois pour les chaînes télé
gratuite
standard, si je puis dire. Donc ça permet d'assurer l'exploitation d'un film en assurant à chaque acteur, donc chaque exploitant du film, un moment privilégié pour l'exploiter, ce qui permet aussi d'assurer un cofinancement, et on y reviendra peut-être justement du film, entre les différents acteurs, les différents éditeurs, que ce soit des chaînes de télévision ou des plateformes qui peuvent ensemble cofinancer, investir à plusieurs dans la production ou le préachat de film. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Si vous me permettez peut-être juste d'ajouter ce qui est intéressant dans le travail en commun, hein, parce qu'on travaille vraiment intelligemment avec le CNC, c'est au fond la complémentarité de l'action publique.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, on est là, on l'a évoqué, pour fixer effectivement un certain nombre d'obligations dans les conventions des chaînes et des éditeurs qui sont régulés par l'ARCOM, dans les univers de la TNT, du CAPSAT et aujourd'hui les services de médias audiovisuels à la demande. Et puis le CNC donc va lui intervenir, je dirais, de manière opérationnelle auprès directement des producteurs dans le cadre d'œuvres qui sont produites par ces producteurs pour les proposer ensuite aux différents éditeurs qu'a évoqué Raphaël et qui sont impliqués dans la chronologie des médias. Donc il y a une très grande cohérence d'action. Et si aujourd'hui on a un cinéma qui est capable en 2024 d'avoir 182 millions d'entrées, c'est aussi la résultante de cette action publique. Et il faut bien avoir en tête, et c'est aussi parce que notre cinéma français, il est extrêmement bien financé grâce aux fenêtres d'exclusivité qui sont proposées à chacun des opérateurs sur la chrono des médias. Donc il faut vraiment avoir en tête que notre cinéma, il peut être attractif, on l'a vu, grâce à ses obligations ARCOM, grâce à l'aide du CNC, grâce bien entendu au rôle essentiel des producteurs, des coproducteurs, des distributeurs, mais aussi des régions et des collectivités locales, et encore des SOFICA. Donc l'ARCOM est un des éléments de cette action d'ensemble qui fait que notre cinéma, aujourd'hui, il est solidement implanté et il est plébiscité par les téléspectateurs, les spectateurs, dans ce qui reste son fait générateur, c'est-à-dire la salle.
Et alors, pour terminer peut-être sur cette question, vous évoquiez tout à l'heure, sans l'expliciter, la question du décret SMAD, vous donniez l'acronyme sans expliciter davantage. Dans cette articulation dont vous parlez en novembre dernier, l'ARCOM et le CNC ont entrepris un bilan de ce texte ensemble. Est-ce qu'éventuellement, en quelques mots rapides, l'un de vous deux pourrait évoquer cette question, parce que vous avez cité le texte sans l'expliciter, rapidement de quoi il s'agit?
Alors rapidement, donc à partir du moment où un SMAD présente un minimum de films dans son catalogue, a une part d'audience, un service de médias audiovisuels à la demande. À partir du moment où il propose à minima 10 films dans son catalogue, qu'il a une part d'audience supérieure à 0,5% et un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros, ce service est assujetti à des obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. C'est à peu près 20% du chiffre d'affaires de cet opérateur. Si cet opérateur est en majorité un opérateur audiovisuel, il va consacrer globalement 4% au financement du cinéma. Et on voit bien le mouvement stratégique qui est en train d'opérer Disney+ sur le marché français, c'est que Disney+ va devenir de plus en plus une plateforme qui va proposer plus de cinéma. Donc ce qui fait que Disney+ va investir jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires dans la production audiovisuelle et cinéma. Et le montant investi dans le cinéma va aller jusqu'à 14% dans 3 ans. Donc vous voyez, on peut adapter le montant des obligations en fonction de la nature éditoriale du service. Ce qu'on a pu voir sur l'exercice 2023, c'est que globalement, l'ensemble des acteurs qu'on a évoqués, de la TNT, du CAPSAT et ces fameux SMAD, ont mis 431 millions d'euros en faveur du cinéma, ce qui est une somme absolument colossale. Et ayez en tête que les acteurs, on va dire, de la télévision traditionnelle, que ce soit des chaînes de télévision non cinéma ou cinéma, ont mis 360 millions d'euros. Et les acteurs SMAD ont mis sur ces 431 millions d'euros, 71 millions d'euros. Donc c'est une vraie tendance d'investissement croissant de ces plateformes dans le cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui est un élément positif de la mise en œuvre de ce décret SMAD.
Alors on a parlé investissement, on peut parler protection maintenant, parce que c'est également un autre engagement fort de l'ARCOM. On a évidemment le constat que le manque à gagner lié à de la consommation illicite de contenu audiovisuel et de retransmission est très important. Vous pourrez certainement citer des chiffres aussi. C'est un engagement pour la création qui se décline ici sur un autre volet, un volet donc lié à la lutte contre les services illicites diffusant des contenus culturels. L'une des missions de l'ARCOM est de lutter notamment contre les sites miroirs. Raphaël Berger, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que c'est un site miroir ?
Alors, un site miroir, c'est un site qui va reprendre en fait tout ou partie d'un site initial. Pour le dire plus simplement, imaginez vous avez un site, ce qu'on va appeler site pirate, sitepirate.com. Si vous décidez de changer son nom de domaine, le nom de domaine c'est vraiment l'adresse, hein, sitepirate.com, de l'appeler sitepirate1.com, alors c'est un nouveau site. Objectivement, puisque ce n'est pas le même nom de domaine, on va y venir, c'est important, et tout l'enjeu est là. Et on va dire que c'est un site miroir. C'est exactement le même, c'est juste une copie, mais avec un nouveau nom de domaine. Donc c'est un site miroir. La mission que vous évoquez, en fait, repose sur un article du Code de la propriété intellectuelle qui permet à l'ARCOM de bloquer des sites miroirs. Alors en fait, il faut revenir dans le contexte global, c'est que depuis assez longtemps, les ayants droit du monde de la culture, du monde du cinéma, entre autres, par exemple, peuvent aller en justice pour demander à faire bloquer des sites Internet. C'est dans le cadre du L336.2, pour être précis, du Code de la propriété intellectuelle. Donc les ayants droit vont en justice, prenons le cas d'un producteur de cinéma, par exemple, va prouver que des sites Internet, donc avec des noms de domaine, proposent les contenus de son catalogue sans autorisation. Ça va être un site de streaming, par exemple, ou de téléchargement direct. Le juge, sur la foi évidemment des preuves faites parifiées par exemple, va demander le blocage du site internet. Le blocage, c'est-à-dire l'impossibilité pour un internaute d'accéder au site. Ce n'est pas la fermeture du site, ça c'est très important. On ne saisit pas les serveurs, ça ce sont d'autres procédures qui peuvent exister, mais c'est pas nécessairement l'objet là. L'idée c'est de bloquer le site. Donc en clair, le juge va demander au fournisseur d'accès à internet, Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom, les quatre principaux FAI, d'empêcher aux internautes d'accéder à ce site en faisant ce qu'on appelle un blocage DNS. C'est-à-dire que, concrètement, ils vont couper un peu la correspondance entre quand vous tapez sur votre moteur de recherche le nom du site et le fait de pouvoir aller chercher le site sur un serveur, ça ne marche plus. L'annuaire ne marche plus. Vous cherchez le numéro de téléphone de quelqu'un dans l'annuaire, vous voyez son nom, mais vous n'arrivez pas à accéder à... vous n'avez pas son numéro de téléphone. Donc, chaque FAI a un annuaire. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques. Ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, vous aviez donc les noms, les ayants droit à aller voir le juge, demander sitepirate.com, il était bloqué. Mais si le site devenait un miroir, créer son miroir avec sitepirate1.com, il fallait retourner voir le juge pour faire bloquer ce site internet, ce qui était long et coûteux pour les ayants droit. Donc depuis avec la création de l'ARCOM, on a de nouvelles missions et il est possible pour l'ARCOM de faire bloquer ces sites miroirs. C'est-à-dire que très concrètement, les ayants droit, à partir du moment où ils ont identifié des sites, après la décision de justice, des nouveaux sites qui reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision, peuvent aller voir l'ARCOM, leur fournir les preuves comme quoi ils ont bien la titularité des droits, que le site propose bien, pirate bien leur contenu. Nous, à l'ARCOM, nous allons revérifier effectivement que le site est bien un site miroir et alors on pourra demander directement au FAI de faire bloquer ces sites. Ce qui est important, il y a deux points si on est dans un cadre, c'est un peu technico-juridique, mais c'est important de le préciser, c'est qu'on est toujours dans le cadre d'une décision judiciaire. Ça, c'est extrêmement important. Antoine l'a rappelé en préambule, la loi de 86 est une loi de liberté de la communication. Donc on agit que dans le cadre d'une décision judiciaire. L'ARCOM ne choisit pas les sites qu'elle va demander, dont elle va demander le blocage. Et c'est dans le cas de la force jugée, donc il faut un certificat de non-appel. Donc nous vérifions, les équipes de l'ARCOM vérifient, et depuis par exemple, début 2022, on a bloqué plus de 1800 noms de domaines, donc sur notification de l'ARCOM. Donc toutes les semaines, on reçoit des demandes des ayants droit, on les vérifie. On est tous agents habilités et assermentés pour vérifier pour faire ce travail. Et on demande ensuite aux fournisseurs d'accès Internet de les bloquer. Avec des effets assez encourageants, si je reprends les chiffres de l'année 2023, par exemple, on a observé une baisse de 30% de l'audience des galaxies, des sites bloqués, des sites miroirs. C'est-à-dire, quand on parle de galaxies, on va prendre le site original qui a été bloqué par les ayants droit, les sites miroirs qui sont donc bloqués par l'ARCOM. Et lorsqu'on cumule l'audience Internet, l'audience de ces sites, de ces sites, donc de ces marques ou galaxies de sites pirates, on a observé une baisse au total de 30%, donc des résultats encourageants qui permettent vraiment d'accompagner, aussi de renforcer les actions des titulaires de droits.
Antoine Boilet, est-ce que vous voulez réagir ?
En fait, ce qui est important, là encore, c'est la cohérence de notre action. C'est-à-dire qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on impose des obligations de financement de la production à tous les opérateurs, en l'occurrence ici les opérateurs de pay TV. Et donc, au même moment, on doit être cohérent et on doit faire en sorte de lutter contre le piratage et de favoriser l'offre légale. Puisque plus ces acteurs privés seront solides, plus ils mettront d'argent dans le financement de la création. Donc, c'est pour ça que le côté promouvoir la création et protéger la création sont bien des éléments cohérents de l'action de l'ARCOM en faveur de la création.
Alors, il y a un élément d'actualité, en tout cas pas très lointain, qui vient à l'esprit, même si on n'est pas pleinement dans la question du cinéma, dans cette question de lutte contre le piratage. Canal, pour lutter contre la rediffusion de leurs matchs, voulait imposer au VPN un filtrage des IP. La question de l'adresse IP, que je vous laisserai expliciter, c'est encore autre chose. Alors, l'ARCOM est engagée dans la lutte contre le piratage sportif, on dépasse donc l'aspect cinéma, et particulièrement contre la retransmission illicite en direct sur Internet de ces compétitions sportives. Est-ce que dans le nouveau dispositif qu'on avait introduit dans le droit du sport, qui tient compte comme ça de l'urgence d'agir, on peut ici mener une réflexion plus large sur la question de l'IP et de se servir de ces adresses IP dans le cadre de la lutte contre ces contenus illicites?
Alors la question de l'adresse IP effectivement est au cœur de l'actualité, parce que Le Sénat, le sénateur Savin a déposé la semaine dernière une proposition de loi visant à lutter contre le piratage sportif en direct. Il ne mentionne pas nécessairement le terme d'IP, puisqu'on n'est pas sur une technologie, mais sur un momentum, je dirais, là en l'occurrence, sur le direct. Ce qui m'amène peut-être, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi le sénateur Savin dépose cette proposition de loi, c'est de revenir, je vais essayer d'être assez rapide, sur le dispositif aujourd'hui que met en œuvre l'ARCOM de lutte contre le piratage sportif, qui est en fait assez similaire à celui que j'ai présenté tout à l'heure de lutte contre les sites miroirs par les ayants droit de la culture. Grosso modo, c'est un peu la même chose. Les titulaires de droits sportifs ont désormais la possibilité aussi d'ester en justice pour demander le blocage de sites illicites diffusant leur contenu. C'est un droit qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, donc c'est aussi une nouveauté. Jusqu'à présent, ils étaient complètement démunis. Donc depuis 3 ans, dans le cadre aussi avec la création de l'ARCOM, ils ont cette possibilité. Et surtout, ils ont la possibilité, une fois qu'ils sont allés voir le juge, un peu dans la même situation que les ayants droit de la culture, pour demander le blocage de noms de domaine, ils peuvent retourner voir l'ARCOM pour demander le blocage de nouveaux sites illicites qui n'auraient pas été identifiés à la date du jugement. Ce n'est pas une reprise du contenu, puisqu'il n'y a pas de contenu quand on est... c'est pas un catalogue puisqu'on est sur du direct, mais c'est le fait d'avoir de diffuser ou d'avoir l'intention de diffuser et l'annonce de la diffusion d'un contenu sportif dont ils ont les droits. Donc, très concrètement, l'ARCOM, depuis 2022, est saisie de très nombreuses occasions par les titulaires de droits sportifs, en l'occurrence que ce soit les éditeurs type Ligue de foot professionnelle, Fédération française de tennis, donc qui sont les titulaires de droits effectifs, ou les éditeurs distributeurs comme par exemple Bein Sport, Canal+, donc des chaînes de télévision, le tout pour énormément de compétitions de football, comme la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi d'autres sports, le top 14 de rugby, la Formule 1, et j'en passe. Ce qui est important, c'est que nous avons déjà, l'ARCOM a déjà bloqué plus de 7000 700 noms de domaines, on bloque plus de 150 par semaine. On en a déjà bloqué près de 2385 relatifs à des services IP. Donc aujourd'hui, l'ARCOM donc, bloque énormément de noms de domaines, toujours dans le cadre d'une décision judiciaire. Là aussi, c'est très important. On est toujours les garants de la liberté de communication. Donc ces blocages peuvent avoir lieu en direct, mais c'est surtout en amont, juste avant le début d'une compétition. Donc on a tout un champ, on prépare évidemment, les équipes de l'ARCOM vérifient l'illicéité d'un site, l'intention de diffuser, et on va bloquer avant. Aujourd'hui, ce blocage, il est, comme je l'expliquais tout à l'heure, un blocage type DNS. Et l'intention de Canal, c'est évidemment d'élargir en fait à d'autres acteurs les mesures techniques. C'est-à-dire que aujourd'hui, le juge, les ayants droit vont assigner d'abord les acteurs principaux de l'accès illicite à des sites pirates. Donc ça va être les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Donc ils l'ont fait. Le juge ordonne toute mesure propre à empêcher l'accès à ce site Internet. Donc quand on a un fournisseur d'accès à Internet, il va ordonner le blocage. Très bien. Ensuite, les titulaires de droits ont un peu agi par cercle concentrique. Donc, ils ont décidé aussi d'assigner les moteurs de recherche. C'est normal. Si vous avez un site pirate qui est bloqué, vous allez essayer d'en trouver un nouveau. Donc, vous allez taper sur votre moteur de recherche. Et un moteur de recherche se voit, lui, imposer le déréférencement d'un nom de domaine. Ça aussi, c'est une mesure très efficace qui complète parfaitement le blocage. On se rend compte ensuite que les internautes peuvent utiliser des outils parfaitement légaux au demeurant à des fins de contournement des mesures de blocage. Ces outils, quels sont-ils ? Ce seront les DNS dits publics, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fournisseurs d'accès à Internet qui proposent des DNS. Vous pouvez avoir Google qui peut proposer un DNS, certains explorateurs, logiciels d'exploration d'Internet comme Firefox par exemple peuvent le proposer, Cisco à un moment donné proposait des DNS, etc. Vous avez énormément de DNS donc alternatifs ou publics, et vous avez aussi les VPN qui sont des outils parfaitement légaux. Là aussi, la technologie est neutre, c'est toujours important de le mentionner. Exactement, c'est l'usage. On a tous beaucoup de gens utilisent des VPN à titre professionnel, mais on peut aussi utiliser le VPN pour contourner, pour bloquer la mesure de blocage, si je puis dire, avec un VPN, elle est inefficace. Donc c'est pour ça que Canal+ a décidé d'assigner des VPN, donc pour élargir ces mesures de blocage. Pour l'instant, la décision est toujours attendue, le jugement est en cours.
Alors dans cet aspect de lutte, dernier point peut-être à questionner avec vous Antoine Volet, au regard du droit européen maintenant, on va parler de la responsabilité des plateformes d'échange en ligne quand des contenus illicites s'y trouvent. On a une articulation à opérer avec la législation européenne désormais sur les services numériques, le DSA. Comment on concilie ces règles européennes avec nos règles internes ?
Alors, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que les choses se complètent. C'est-à-dire que les dispositifs que Raphaël vient d'évoquer au niveau national, en fait, on va y ajouter un arsenal supplémentaire au niveau européen, avec effectivement le règlement sur les services numériques et le fait qu'on va pouvoir, et nous sommes le coordinateur national de la mise en œuvre de ce RSN, en lien avec la Commission européenne, et sur toutes ces grandes plateformes, on a identifié le risque systémique qui est effectivement le partage de contenus, si j'ose dire, illégaux au niveau de la propriété intellectuelle. Donc le RSN va nous aider à renforcer notre politique en faveur de la lutte contre le piratage. Un seul exemple, c'est les discussions que nous avons en ce moment avec le volet signaleur de confiance du RSN. Le fait est qu'un certain nombre de représentants des ayants droit s'intéressent bien entendu particulièrement à ce statut de signaleur de confiance qui leur permettra eux aussi d'ajouter une corde à leur arc. Donc on discute avec eux. On va probablement prendre des décisions en la matière dans les prochaines semaines. Donc c'est bien la preuve que le volet signaleur de confiance va être un élément de plus au niveau européen qui va nous permettre d'aller plus loin dans la lutte contre le piratage. Donc ça se complète.
On peut presque glisser vers le dernier temps de la discussion avec une question prospective sur une régulation dans 10 ans, parce que j'allais aborder la question de l'IA, mais en fait ça va presque là-dedans, la question de l'IA, on est sur quelque chose d'actuel mais qui va s'étoffer encore. Dans cette lutte contre le piratage, est-ce que l'IA, qui a le vent en poupe en ce moment, est un objet dont on peut se saisir? Comment les acteurs peuvent s'en saisir pour protéger finalement leur œuvre? Raphaël Berger peut-être?
Alors, l'IA peut agir, peut être utilisée à tous les niveaux de la lutte contre le piratage. Là, par exemple, au sein de l'ARCOM, nous sommes en train de réfléchir, même on va bientôt, je pense, faire des tests, en tout cas, on y travaille, pour utiliser l'IA, par exemple, pour faire des captures d'écran et nous aider dans la réalisation de procès-verbaux, puisque que ce soit dans la lutte contre les sites pirates culture, donc la lutte contre les sites miroirs ou sportifs, on est toujours dans le cadre, à un moment donné, d'une vérification. On est des agents habilités assermentés, il nous faut des preuves. L'IA peut nous aider pour faire ces captures d'écran, pour rédiger nos PV. Donc là, c'est vraiment l'IA en tant qu'outil, au même titre qu'un outil informatique. Et certainement, ça devrait être assez prometteur. On peut aussi penser à l'IA. Alors, je pense aussi à une autre action de lutte, on va dire, contre le piratage, ou on pourrait dire d'encouragement et de favoriser l'offre légale, c'est sur les sites de partage de contenu type YouTube, Facebook, etc. Vous avez des logiciels qui permettent d'identifier qu'une œuvre a bien été bien autorisée par ses titulaires de droit pour être utilisée, pour être téléversée, téléchargée sur ce site. C'est des logiciels comme Content ID, par exemple, sur YouTube, Rights Manager sur Facebook, pour ne citer que les principaux d'entre eux, qui permettent de vérifier qu'une œuvre a bien l'autorisation de l'ayant droit pour être déposée sur la plateforme. On peut imaginer aussi l'IA qui pourra peut-être faciliter ce genre de vérification. C'est aujourd'hui des systèmes qui passent par empreinte, ce qui fonctionne, mais qui est peut-être un peu lourd pour les ayants droit. On peut peut-être imaginer d'autres dispositifs divers et variés. Donc, aujourd'hui, c'est même encore un peu tôt pour imaginer tout ce que peut faire l'IA, mais on sent bien qu'elle va nous aider grandement en de nombreux champs.
Ce qui est clair, c'est que, au fond, pour réguler ces grandes plateformes, que ce soit des grandes plateformes de partage de vidéos comme Netflix ou effectivement ces acteurs comme YouTube, l'échelon européen, qu'on parle de régulation des réseaux sociaux ou d'IA, c'est le bon. Et donc nous, de ce point de vue-là, on s'inscrit fondamentalement dans une dynamique européenne.
Dans la dynamique européenne, justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser sur les risques. On a aussi la volonté de lutter contre la manipulation de l'information avec ces contenus générés par IA. L'IA Act en parle. Donc c'est une question de risque aussi que l'échelle européenne entend réguler.
Alors c'est là où il y a un lien et forcément une passerelle à mettre en place entre le règlement sur les services numériques et l'IA Act. Ce que j'ai évoqué à l'instant, le règlement sur les services numériques. Un des risques systémiques qui est identifié, c'est le risque justement de la désinformation qui peut être poussée et boostée grâce à l'IA. Donc on voit bien qu'à un moment, dans le contexte global de l'IA Act, on va pouvoir s'appuyer, notamment avec des signaleurs de confiance, sur le RSN pour demander à ces grandes plateformes de retirer tel ou tel contenu illicite, hein, le fait générateur de base, c'est que le contenu doit être illicite, généré par IA ou pas. Donc c'est là encore, c'est la dynamique européenne et la logique de passerelle entre le RSN et le IA Act. De la même manière, tout ce que Raphaël a évoqué sur IA, piratage, on peut aussi s'appuyer sur la directive droit d'auteur qui nous donne déjà un certain nombre d'outils et de leviers. Donc directive droit d'auteur, RSN et IA Act, c'est bien là-dessus que dans les 10 ans qui viennent, on va fortement axer nos actions.
Et au-delà de ça, la régulation dans 10 ans, c'est quoi pour vous au-delà de l'IA, quels sont les autres enjeux que vous voudriez soulever en conclusion?
Si vous me le permettez, j'aimerais bien revenir au 7e art. En ce printemps du cinéma et partager justement quelques enjeux et perspectives d'avenir pour l'ARCOM. Le premier enjeu, mais l'ARCOM au cœur de l'écosystème qu'on a évoqué avec vous ce matin, c'est de continuer cette magie française du succès de la salle. C'est-à-dire que dans ce monde de l'IA, dans ce monde de plus en plus dématérialisé, le fait qu'on ait de plus en plus de Français qui aillent au cinéma, c'est génial, il faut le poursuivre. Cette aventure humaine, il faut la poursuivre, il faut que l'histoire continue, comme le dit Thierry Frémaux. Le deuxième volet pour nous, c'est de jouer un rôle pour que collectivement, on renforce, si j'ose dire, la solidité et le modèle économique de nos acteurs traditionnels de la télévision, gratuits comme payants, ces acteurs français qui financent en majorité le cinéma. Sur les 430 millions que j'évoquais en 2023, 85% vient de Canal+, de France Télévisions, de TF1 ou M6. Donc nous, on est tout à fait prêts à ouvrir le modèle aux nouveaux acteurs. Il faut qu'on le fasse, mais il faut d'abord solidifier nos acteurs nationaux. Et donc l'enjeu qui suit, c'est qu'en complément de ces acteurs nationaux, nous devons là aussi nous mobiliser collectivement pour réussir la montée en puissance de l'engagement et de l'investissement des plateformes de vidéo internationales comme Netflix en faveur du cinéma. Sur le bilan qu'on a mené avec le CNC sur 2021-2023, on a pu voir qu'ils ont mis 160 millions d'euros en 3 ans, qu'ils ont respecté leurs obligations, qu'ils sont intégrés à l'écosystème du cinéma français. Ils financent en majorité des programmes d'expression originale française, portés par des producteurs indépendants. Ils se positionnent aussi sur des films dits de la diversité à plus petit budget. Et l'autre tendance intéressante qu'on a pu voir, c'est que ces acteurs jouent le jeu du coup de la sortie salle et ils jouent le jeu du partenariat avec l'ensemble des autres éditeurs. Le meilleur exemple 2024, c'est L'Amour Ouf. L'Amour Ouf, c'est porté par Netflix, mais en première fenêtre de diffusion payante après la sortie salle à 6 mois, on a Canal+. Et puis on a également France Télévisions qui arrivera 2 ans après la sortie salle. Donc c'est intéressant de voir à quel point ces plateformes jouent le jeu de la salle et jouent le jeu du partenariat avec les autres acteurs. Donc il faut qu'on réussisse maintenant la montée de l'engagement cinéma de Disney+, en échange de son arrivée à 9 mois dans la chronologie des médias, sans oublier qu'aujourd'hui, l'acteur des SMAD qui met le plus d'argent dans le financement du cinéma, c'est Netflix, qui a mis en 2023 autour de 50 millions d'euros. Donc n'oublions pas Netflix, n'oublions pas Prime Video, et peut-être qu'un jour, assez rapidement, des plateformes comme Paramount+ ou Max seront intégrées à ce système vertueux et dynamique d'obligation de production de ces plateformes pour le cinéma. Voilà un peu les principaux enjeux et notre feuille de route dans les prochains mois.
Et ben merci beaucoup, il y a une tendance et quand même pas des moindres, moi je la soulignerais pour mes propos conclusifs à moi qu'on n'aura pas le temps d'évoquer beaucoup, mais dans cette idée d'incitation à l'utilisation vertueuse et dans cette mission d'encouragement, c'était aussi une campagne de sensibilisation importante que mène l'ARCOM. Vraiment, en une minute, si vous voulez réagir.
En une minute, en fait, l'ARCOM a réalisé deux grandes actions. Enfin, d'abord, une campagne de communication avec le CNC, c'était le principe merci. Alors là, on reprenait les codes d'une série de télévision, mais une très bonne série, c'était en thérapie, on peut le dire. Donc merci, avec où l'on voyait des pirates repentis en parler à leur psychanalyste.
Mais avec
Le jeu de l'humour, qui était vraiment une très belle campagne avec le CNC, à qui on dit merci, donc merci. Mais aussi, surtout, toute une campagne dans les collèges, dans les lycées, même dans les écoles primaires, de sensibilisation, d'ateliers pédagogiques auprès des élèves. Et l'ARCOM, depuis 2018, a déjà sensibilisé plus de 55 000 élèves à des usages respectueux d'Internet au sens large, c'est-à-dire éducation aux médias, lutte contre le piratage, voilà, des usages respectueux. Apprendre à bien utiliser Internet, c'est important, c'est aussi une des missions de l'ARCOM.
Eh ben, merci à vous, Antoine Bollet, Raphaël Berger.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Glad I got sunshine in in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit.
Image symbolique d'un grand nom du cinéma comme Transition, Clint Eastwood dans ce titre de Gorillaz. Pour terminer cet échange, c'est avec une lecture mettant à l'honneur les femmes que je vous propose de continuer avec ce communiqué de presse de France Télévisions.
Olympe, une femme dans la révolution. Lundi 3 mars à 21h10 sur France 2 et sur France.tv. Journée internationale du 8 mars, la fiction Olympe, une femme dans la révolution, au cœur d'une nouvelle programmation événementielle sur France Télévisions. France Télévisions, qui réaffirme au quotidien son engagement en faveur de l'égalité et des droits des femmes, propose, autour de la journée internationale du 8 mars 2025, une programmation événementielle mettant en lumière les combats et destins des femmes d'hier et d'aujourd'hui, leurs grandes conquêtes émancipatrices, leur rôle et leur place fondamentale dans notre société, dans la vie publique, économique, sociale, culturelle, l'enseignement, le sport, la science, les médias. Au cœur de ce nouveau dispositif éditorial, la fiction événement Olympe, une femme dans la révolution, interprétée par Julie Gayet et co-réalisée avec Mathieu Busson, éclaire la vie et les combats d'Olympe de Gouges, pionnière du féminisme en France, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui préfigure la pensée féministe et l'égalité femmes-hommes d'aujourd'hui. Sur ses plateformes France.tv et Lumni, ses antennes linéaires et ses médias sociaux, France Télévisions déploie une programmation riche et diversifiée pour accompagner la Journée internationale des droits des femmes qui a pour thème en 2025 « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». Plusieurs de ses créations et documentaires de référence qui nous alertent en particulier sur l'oppression et la régression des droits de la femme et des filles dans de nombreux pays participent avec ses rendez-vous d'information à la nouvelle mobilisation du groupe autour de cette actualité nationale et internationale.
Alors Antoine Boilet, Raphaël Berger, vous l'avez compris, vous l'aviez souligné un peu avec humour lorsque je vous avais proposé cette émission, la voix féminine n'était pas assez représentée. Alors nous y voilà avec une lecture sur un thème néanmoins fort que Mars nous a donné l'occasion de traiter parfois, cette journée internationale des droits des femmes. Est-ce que finalement la régulation des médias, c'est pas un peu aussi ça, permettre de soutenir et de lutter pour certaines causes?
Alors l'ARCOM fait un travail absolument remarquable, notamment avec ma collègue Laurence Pécaud-Rivolier et les services, avec l'ensemble des éditeurs, notamment sur cette question de la parité, de l'image des femmes, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et l'angle, si j'ose dire, la baseline, ça pourrait être, et c'est vraiment un combat au quotidien de l'ARCOM avec l'ensemble des éditeurs, c'est que fondamentalement, le 8 mars, sur les antennes, c'est tous les jours. Et donc, de ce point de vue-là, on impose aux différents éditeurs de télévision, de radio, un certain nombre d'objectifs très ambitieux sur ces questions liées aux femmes, mais plus globalement sur la question de la diversité. Et on voit bien ici le rôle de représentation dans l'imaginaire collectif de la fiction, mais on pourrait multiplier les exemples. Cette semaine va être présentée à Sérimania avec Audrey Fleurot, le carton absolu en saison 5 de HPI, nos héroïnes féminines en première, en deuxième partie de soirée, dans les feuilletons, dans des fictions événements, elles jouent un rôle absolument fondamental. Il n'y a pas que la fiction. On essaie aussi de pousser à ce que les femmes expertes soient plus présentes sur les plateaux, notamment des magazines. Donc on a bien un spectre global d'action où on essaie d'être le plus incitatif possible, mais ça ne nous empêche pas, quand il le faut, de taper du poing sur la table. Mais il faut quand même reconnaître que sur ces questions, les éditeurs de la télévision traditionnelle et la radio joue le jeu, mais on peut encore aller plus loin. Juste aujourd'hui, on a la parité de présence de femmes sur les plateaux, mais on se rend compte que leur temps d'antenne est plus faible que les hommes. Et donc ça, c'est un de nos combats. Oui, il y a la parité de présence. Maintenant, il faut la parité de temps de parole.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Antoine Boilet, membre du Collège de l'Arcom, président du groupe de travail création et production audiovisuelle, cinématographique et musicale de l'Arcom. Avec lui, Raphaël Berger, directeur de la création au sein de l'Arcom. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot à Rango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.